dites-moi si vous reconnaissez cette voix ou pas.
Je vais redessiner la carte du monde. Quand j'aurai fini, la Terre entière connaîtra mon nom. Loin des clichés,
Radio Campus
va vous surprendre.
Et les chiffres le prouvent.
88.3 FM.
Elle sera bientôt un peu partout.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Xavier, bonsoir Claude.
Bonsoir Asma. Merci d'être là derrière les platines.
Merci à vous, bonsoir, bienvenue dans l'émission Cinéma hebdomadaire. On va faire un point sur les films que vous avez vus tous les 15 jours, pardon, hebdomadaire, c'est une émission qui passe diffusée sur Radio Campus Orléans.
Mais tu as raison, il y a l'autre équipe. Il y a l'autre équipe qui alterne.
On va faire un point sur tous les films que vous avez vus récemment. J'en ai vu quelques-uns également. Xavier, de quoi tu vas nous parler ce soir ?
Eh bien, moi j'ai vu 5 films qui sont encore à l'affiche, dont certains, comme vous le savez, chez nos amis des Carmes, il y a énormément de films à l'affiche, donc il y en a qui ne passent plus qu'à un seul horaire dans la semaine, et donc c'est le cas de Sidonie au Japon, dont nous parlerons, de Hopeless, le film coréen, et Le mal n'existe pas de notre ami japonais Ryosuke Hamaguchi. Lui, il y a encore quelques séances quand même, voilà, pour aller le voir. Et par ailleurs, je parlerai d'une comédie française qui s'appelle Nous les Leroy, et voilà.
Et toi Claude, bonsoir Claude, est-ce qu'on t'entend ?
Eh bien moi j'ai vu, alors comme j'ai dans les festivals...
Attends Claude, je crois qu'on t'entend pas, on t'entend pas pour l'instant, un petit réglage technique.
On va tester avec un autre micro.
Ouais, essaye avec celui-là.
Oui là, c'est bon ?
Très bien, on t'entend.
Merci, pardon, excusez-moi, j'ai toujours pas retrouvé ma voix, mais peu importe. Oui, donc comme j'ai vu dans les festivals un certain nombre de films, j'ai donc de l'avance, notamment en ce qui concerne Borderline, qui est le prix du jury au festival Premier Plan d'Angers au mois de janvier.
Et qui est à l'affiche.
Et qui est à l'affiche, et je vous en parlerai brièvement. De Borgo, qu'on a vu ensemble avec Xavier, Une affaire de principe, le film sur les lobbyistes à Bruxelles joué par l'excellent Bouly Lamers. Donc Borderline, Borgo aussi, Une affaire de principe, Le tableau volé qui m'a beaucoup plu, Amal, un esprit libre, Sidonie au Japon qui était le film d'ouverture à Angers. Donc ça fait déjà ça un certain nombre de...
Ça a de quoi nous occuper un petit peu.
Ça a de quoi nous occuper. Et Asma, on va peut-être te laisser la parole, puisque non seulement tu es une technicienne, mais tu vois aussi des films, donc tu vas pouvoir nous en parler.
Je m'improvise technicienne ce soir. moi, je peux vous parler... J'ai surtout vu des documentaires ces derniers temps. J'ai vu un documentaire, je ne sais pas si... Je ne l'ai plus vu à l'affiche... de Nicolas Philibert, documentariste, voilà.
Oui.
Ces derniers temps, il y en avait deux de ces documentaires qui étaient à l'affiche au Cinéma des Carmes. Il y avait Averroès et Rosa Parks, celui que j'ai vu. Il y avait également La Machine à écrire. Et Nicolas Philibert, en fait, il est surtout connu pour filmer la psychiatrie, l'univers de la psychiatrie. Il avait commencé il y a 30 ans avec La Moindre des Choses. Et il y a eu notamment celui qui a été particulièrement remarqué, primé, c'était...
L'Adamant.
Voilà.
Ah oui.
Sur la péniche qui est amarrée au quai d'Austerlitz à Paris.
Voilà. Mmh. Et il a un regard très intéressant sur la psychiatrie, sur tout l'univers de la psychiatrie, qui filme de manière très reculée, très discrète. Donc on voit vraiment, on est invité à avoir des entretiens... de gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont très reculés, hein, hors de la société. Ils filment un espèce de petit cosmos extérieur à nous, à notre monde social. Et ça en dit long. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des petites dimensions extérieures, loin de nous, parce que même géographiquement, c'est silencieux. Ils ont l'air d'être mignons, toujours de la pelouse, même sur l'Adamant. C'est un endroit... à part, en fait, et ça en dit long sur notre société à nous en les regardant. Enfin, moi, c'est mon avis. Je trouve qu'en
regardant tout à fait,
cosmos-là fermé, ça nous renseigne nous sur le nôtre. Il a un regard sur la psychiatrie, mais sur l'humain tout court. C'est une façon de filmer très humaniste, je trouve qu'il a. Je ne sais pas si vous avez vu.
Moi, j'ai vu L'Adamant. Moi, j'aime bien Philibert parce que bon, tu disais qu'effectivement qu'il s'est intéressé à la psychiatrie il y a déjà longtemps et là il y revient. Mais Philibert, c'est quelqu'un de, c'est un documentariste vraiment très très intéressant parce que comme tu le disais, quels que soient les sujets qu'il traite, il revient centré sur l'humain effectivement. Et quand on regarde son parcours. Il a fait la maison de la radio sur le Radio France. Il a fait Être et avoir, qui avait été un très très gros succès sur l'enseignement. Il avait fait un film aussi sur la Bibliothèque de France. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, et puis sur le musée aussi, le musée de d'histoire naturelle. Alors voilà, c'est quelqu'un qui à chaque fois part de sujets sociaux, de qui tournent autour de l'art, de la parole, et il s'approprie à chaque fois, et puis il y a cette espèce de naturel un peu déconcertant chez Philibert de film en film, ouais. Et je pense que pour parler de la psychiatrie, il a la distance, il a la juste bonne distance que devrait avoir tout documentariste, et puis c'est très bien finalement que quelqu'un comme lui ait pu avoir un Lion d'Or à Venise avec je crois que c'est le premier documentaire dans l'histoire du cinéma qui obtenait une aussi haute distinction dans un festival aussi huppé. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est un cinéma effectivement extrêmement intéressant, Philibert.
Ouais, il le dit lui-même qu'au moment où il voulait filmer La Moindre des Choses il y a une trentaine d'années, il se sentait voyeur.
Oui, je suis réservé.
Ah.
Réservé pour deux raisons qui me sont propres. J'ai beaucoup de mal avec le documentaire de création. Pour moi, un documentaire doit être la réalité brute, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est le documentaire de création. Je prends un documentaire et à partir de ce documentaire, je fabrique un film. Bon. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être sur l'adamant et de regarder ce qui s'y passe dans une journée en continu. C'est pas Philibert, je critique, c'est tout le système de documentaristes français à l'heure actuelle, contrairement aux documentaristes américains. C'est il y avait un petit cinéaste américain de fiction, je suis en train de je Shadows, le type qui a fait Shadows.
Oui, Cazavetes.
John Cazavetes qui disait
un tout petit réalisateur.
Oui, un tout petit réalisateur. Non, grand réalisateur indépendant américain qui disait un documentaire, on s'en fout comment c'est filmé, ce qui est important c'est ce qui est dit. Et maintenant c'est tout faux ça. Ce qui est important c'est qu'un documentaire soit beau, voilà, et bien fait. Donc on s'éloigne, moi, d'une certaine réalité. Et j'en veux pour preuve, c'est que Ozon, dont on parlait tout à l'heure au sujet de Grâce à Dieu, il a pensé faire un documentaire. Il a dit, si je fais un documentaire, je serai moins près de la réalité qu'en faisant une fiction, en reprenant les paroles exactes de, je ne sais plus comment il s'appelle, le monseigneur là en question. Là.
Hein,
Grâce à Dieu. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Non, Justigé, c'est celui qui l'a couvert.
Oui, bref. Oui. Où il a repris les paroles exactes, où il y a Grâce à Dieu, où il y a le fameux Grâce à Dieu.
Barbarin.
Oui, où il y a le Grâce à Dieu, c'est les paroles exactes qu'il a mises dans la bouche d'acteur. Et il me dit, là, je suis plus près de la vérité que si j'avais fait un documentaire. Et je pense que sur certains points, il a raison. Donc, c'est pas une critique de Nicolas Philibert, c'est une critique de... Moi, j'en avais discuté avec un garçon qui a été critique au Cahier du cinéma, et je vais être bref, et qui aussi fait des biopics maintenant, notamment sur Michael Haneke. Et j'avais été le voir, j'ai dit, dis-moi là, parle-moi de ce que t'as pas pu montrer, ce que t'as pas montré. Ah bah, il me dit, tiens, ça, j'ai pas pu le montrer, par exemple. Bon, ben bah, voilà. Voilà le documentaire. Merci, j'en dirai pas plus.
On peut peut-être enchaîner sur Borgo.
Borgo, hein, oui. Hein,
un grand film, enfin pour moi.
bon, voilà, je vais faire un aparté sur... Vous savez que je suis très attaché à l'écriture cinématographique. Et à l'heure actuelle, on voit de très bons films, de bons scénarios, bien filmés, mais où je dis où il y a très peu de cinéma. Et il y a une copine dernièrement qui me dit, mais qu'est-ce que tu dis en disant il n'y a pas de cinéma? Explique-moi ce que c'est, le ton, t'as pas de cinéma. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et cet après-midi, je vais donner une image, parce que je travaillais avec un professionnel, et... c'est l'histoire d'un garçon qui rentre dans une boutique, peu importe. À un moment, il prend un violon et la vendeuse se méfie beaucoup du garçon pour des raisons X et on lui donne un archer. Et si on était dans un téléfilm, on dirait attention monsieur à l'archer. Non. Là, on est au cinéma et l'inquiétude de la vendeuse, on fait un gros plan sur son visage où on voit tous ses doutes et toute son inquiétude. Et si on était dans un téléfilm, on dirait « Attention, monsieur !» Ben voilà, la différence est là. Dans un cas, on est au cinéma et pas dans l'autre. C'est ça, je veux dire, il y a du cinéma. J'étais long, j'arrête, oui. Et parlons de Borgo.
Parlons de Borgo. Alors, écoute, moi, tu parlais de cinéma. Moi, j'ai vu un vrai film de cinéma avec Borgo. Alors, c'est le troisième film de Stéphane de Moustier, qui est le frère de Anaïs, hein, l'actrice, une des actrices française majeure, maintenant, depuis une dizaine d'années. Alors, moi, j'ai trouvé ce film très intéressant parce que tu parlais de réel. Stéphane de Moustier, il s'est inspiré d'une histoire réelle.
Inspiré, voilà, jusqu'à la fin, c'est l'histoire réelle.
Puisque l'héroïne de l'histoire, si on peut dire, est jugée en ce moment dans la vraie vie.
Oui, oui.
Voilà, donc, alors, il s'est inspiré d'une histoire réelle tout en faisant quelque chose de très personnel, puisqu'ils ont considérablement romancé l'histoire, ils ont changé des choses. Et alors, déjà, c'est porté par une actrice formidable qui s'appelle Afsia Herzi, qu'on voit dans le cinéma français depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est devenue réalisatrice elle aussi. Alors, elle porte vraiment ce film. Et moi, j'ai trouvé que vraiment, ça fonctionne dès le début, parce que tu parlais d'inquiétude tout à l'heure. Ce film crée en permanence un climat d'inquiétude, même quand il se passe rien. Il y a une manière de créer justement avec de simples mouvements de caméra, avec cette manière de suivre les personnages à moitié à distance par moment et beaucoup plus proche à d'autres moments, qui crée, il y a un jeu comme ça permanent dans, qui crée une espèce de déséquilibre et d'état d'inquiétude permanente pour les personnages. Et puis, effectivement, c'est l'histoire d'un engrenage et on est effectivement dans une progression implacable où effectivement il suffirait qu'un personnage fasse quelque chose, dise ou fasse une chose un tout petit peu différente à un moment dans le premier tiers de l'histoire et tout changerait. Et là, elle ne le fait pas et tout va s'agencer vers un récit de plus en plus tragique et de plus en plus violent. Et il faut pas oublier qu'on est en Corse, que ça se passe en Corse et que le réalisateur a remarquablement saisi le climat de l'île tout en ne faisant pas un film à charge, tout en ne faisant pas un film comme... Il y a eu beaucoup de films sur la Corse qui sont un peu des films à charge. Là, c'est pas du tout le cas. Mais en même temps, c'est d'une grande lucidité par rapport à la réalité de la violence et des petits arrangements de la criminalité qu'il y a sur cette île. Et le tout forme, je pense, quelque chose de vraiment harmonieux, un film vraiment harmonieux qui prend le spectateur dès le début et qui te lâche plus jusqu'à la fin. Et moi, vraiment, je suis sorti très convaincu de ce film qui, pour moi, d'ores et déjà, est un des meilleurs que j'ai vu cette année.
Bien.
Parce que vous l'avez vu tous les deux.
Oui, on l'a vu tous les deux.
Un rapide pitch, la situation initiale.
Bon, donc, c'est l'histoire d'un engrenage, en fait, à partir d'une cigarette. Et c'est, j'allais dire, cet engrenage, ça fonctionne comme une montre qu'on remonte. Qu'on remonte, petit à petit. Et on voit très bien cet engrenage avec une mise en scène qui va crescendo jusqu'au moment où le ressort, est-ce qu'il va casser ou pas ? Ça, je vous laisserai aller voir le film, jusqu'à l'inéluctable. Et quand je disais, il n'y a pas trop de cinéma, je veux dire, c'est dans la façon dont le film est plan. Mais dans la mise en scène, il y a une mise en scène qui est extrêmement efficace. Très efficace, qui est la mise en scène d'un trieur, hein. Il n'y a pas d'illusion. Et ce qui est très bien, justement, mis en scène, je me répète, c'est cette histoire d'engrenage qui va crescendo petit à petit. On monte d'un cran, et ainsi de suite. Et on monte, et le ressort, il se tend jusqu'à l'inéluctable. Moi, sur le plan de la mise en scène, alors, pour les gens que ça intéresse, faut suivre le procès qui a lieu à l'heure actuelle parce que c'est le film.
Bon, après, si tu veux, on peut pitcher un tout petit peu. Moi, c'est vrai que je préfère parler de ce que je ressens vis-à-vis des films que de les pitcher généralement. Mais bon, on va dire que c'est l'histoire d'une surveillante de prison qui est mutée qui part en Corse, qui vient de Paris et qui part en Corse et qui va se retrouver prise parce qu'elle rend des petits services aux détenus et puis il y a un détenu qu'elle a connu à Paris et pour lequel elle a développé une certaine affection, on va dire, et elle va vouloir l'aider et lui va l'aider en retour et va se déclencher effectivement, comme disait Claude, un engrenage avec un ressort de plus en plus tendu et qui va aller vers un inéluctable de plus en plus dramatique. Voilà.
Et vous avez aimé tous les deux. Vous
êtes oui,
c'est
oui,
un film qu'on conseille fortement.
Oui. Borgo, c'est Stéphane de Moustier, c'est un bon réalisateur. Mmh. Hein. La fille au bracelet, c'est extrêmement bien réalisé.
Ah, c'était lui.
Oui. Je me souviens pas du premier, mais non, c'est un bon réalisateur. Non, c'est un excellent. Borgo est un excellent film, et je ne pensais pas qu'il était le plus près de la réalité, parce que j'ai entendu les chroniqueurs judiciaires au sujet de ce procès. Donc pour les gens que ça intéresse, vous pouvez aller voir le film et suivre la chronique judiciaire.
Et suivre l'actualité. On peut peut-être parler très rapidement, parce que je pense que le film ne mérite pas qu'on s'y attarde non plus des heures, de Sidonie au Japon avant de faire une petite pause musicale.
Oui.
Hein, Claude ? Je reconnais aussi que j'ai peut-être pas vu le film dans les meilleures conditions possibles. C'était un après-midi où j'étais fatigué, où j'avais du mal à me concentrer sur le film. Même dans un état de fatigue et avec une concentration difficile sur le film, je pense que c'est pas un grand film. Très franchement, c'est plein de tics pour moi. C'est plein de tics d'un certain cinéma d'auteur français. C'est comme beaucoup de réalisateurs, enfin là en l'occurrence c'est Élise Gérard, c'est une réalisatrice, comme beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui tournent avec Isabelle Huppert, ils ont tendance à faire un film sur Isabelle Huppert, plus qu'un film. Et là, on a vraiment l'impression qu'Élise Gérard, elle... elle se fait plaisir en filmant un personnage qui est d'écrivaine, mais ce personnage d'écrivaine, ça pourrait être Isabelle Huppert, l'actrice, qui part au Japon, qui fait des rencontres autour de ses livres, mais ça pourrait être autour de ses films. Et donc voilà, il se plaît à... Alors derrière ça, il y a une histoire. Elle a perdu récemment son mari, elle voit son fantôme qui se matérialise en permanence. Il y a cette histoire d'amour qui se développe avec ce japonais. Moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 10 000 fois. Alors il y a des énormes références à Hiroshima mon amour de René Duras.
C'est même lourdingue.
Voilà, mais ça en devient lourdingue et voilà. Et moi franchement je me suis ennuyé. Vraiment, par moment, et j'avais l'impression de voir se dérouler un espèce de petit pinsum, vaguement un télo, qui se déroulait devant moi, et à un moment, je me suis dit, ah bah c'est fini, voilà.
Alors, en t'écoutant, tu m'as donné une idée, parce que si donné au Japon, c'est l'histoire d'une absence, bon, et je dis... Quand je suis méchant, je dis c'est un film qualité française. C'est-à-dire, si vous l'avez vu, c'est bien. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pareil. Il ne vous laissera pas un grand souvenir. Et on parlait dans la voiture du hors-champ. Voilà, au lieu de montrer le mari, le fantôme du mari, si elle avait fait un film autour du hors-champ, faire exister le mari qui était décédé par d'autres scènes, ça aurait donné un film de toute autre dimension que celui qui nous est donné à voir.
Après, moi, ce que je pense, je finirai là-dessus. Ce que je pense, c'est que, au moins à son crédit, on peut dire, je pense que ce qu'elle a voulu faire, elle a voulu faire comme le film se passe au Japon, elle a voulu faire référence à tout un pan du cinéma japonais
oui.
Et notamment le cinéma de Kiyoshi Kurosawa, qui est un réalisateur que j'adore et qui a fait de plusieurs films qui tournent autour de cette idée très japonaise du fait que les spectres sont toujours présent dans la vie des gens et que y a plusieurs films de Kiyoshi Kurosawa où les spectres parlent aux gens, apparaissent dans la vie des gens de manière très et pas du tout, c'est pas du, ils font pas du tout peur, ils sont là de manière très douce et je pense qu'elle a voulu faire référence à ce cinéma-là. Mais le problème c'est que dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa, ça fonctionne, c'est poétique. Et là, ça fonctionne pas du tout.
Non, c'est lui qui a fait Kakemusha ou pas Kurosawa, le film de sur
non
le...
ça c'est Akira.
C'est Akira. Oui.
Kiyoshi, c'est son héritier, si on veut dire. Voilà. Ouais. Mais
je suis d'accord.
On va pas non plus plomber Élise Girard, qui est sans doute quelqu'un de très sympathique dans la vie. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup aimé son film.
Non. Bon, eh ben, merci pour ce retour sur Sidénio au Japon. On va faire une petite pause musicale. On vous laisse quelques minutes avec Sunday Night de Rosaire. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans, sur l'émission Cinéma hebdomadaire avec Xavier et Claude. Claude, tu voulais nous parler de Borderline.
Oui,
tu as vu.
Alors Borderline, c'est un film espagnol qui est l'histoire de deux, faire le pitch très rapide, de deux, d'un couple qui n'est pas marié et qui va émigrer aux États-Unis. Et c'est l'histoire du passage devant la, comment ça s'appelle, les inspecteurs d'immigration, je ne sais pas quels sont ils. Alors, c'est un film de montage, comme l'anatomie d'une chute, en plus court, 1h17, mais c'est un film qui est à scénario, au cordeau, un film d'une efficacité monstre, et un film extrêmement, je veux dire, bien monté, et d'une grande rigueur, grande rigueur. Alors, tout est dans la fin, donc je vous parlerai pas de
oui,
la fin.
Parce que alors, je connais quelqu'un qui va y aller bientôt.
Et j'ai vu ce film deux fois, et c'est la jeune femme qui a eu le prix d'interprétation à Angers. Et je regarde l'interprétation du jeune homme, là. Je me dis, putain, il est extraordinaire, ce type. Ils n'ont rien donné. Donc, c'est cette histoire c'est un film qui est anxiogène et glaçant. Donc, je vous recommande d'aller le voir, parce que c'est très extrêmement bien maîtrisé. Je veux dire, il n'y a pas une faute de mise en scène. Alors, ce film était aussi présent à Annonay.
Apparemment, il semble qu'il ait été multi-récompensé. Il a fait le tour des festivals, oui, il a été un peu multi-récompensé partout. Hein.
Partout. Et Annonay, on ne l'a pas récompensé pour une chose, c'est pour moi, c'est du théâtre filmé. On peut dire la même chose en faisant du théâtre. L'efficacité du cinéma, ce qu'apporte le cinéma dans l'histoire, dans le pitch, là, c'est uniquement, je veux dire, la mise en scène et le fait de pouvoir couper, de cutter très, très rapidement, c'est ça. Alors que si ça avait été fait au théâtre, il y aurait un changement de décor et autres. Alors que là, c'est l'avantage du cinéma, c'est très rapide. Mais je vous recommande, c'est glaçant. C'est un film qui est glaçant. On peut être en sueur pendant tout le film. Et je vous dis pas le happy end qui est sur un coup de tampon d'une efficacité monstre. Et j'avais eu le film à Angers avec un copain qui a vécu ça aux États-Unis, le fameux passage avec les pouces et autres, et me dit c'est exactement ça. Donc moi je vous recommande d'aller voir Borderline.
On ira. J'étais déjà convaincu avant, Claude, mais alors là je suis encore plus convaincu. Là je suis déjà dans la salle.
Effectivement, j'ai hésité à aller le voir.
Asma, tu peux nous parler du Déserteur, qu'on n'a pas vu d'ailleurs.
Non, qu'on n'a pas vu.
Deux jours, il est encore à l'affiche. Il est sorti fin avril, je crois, 24 avril. De Danny Rosenberg. C'est un film israélien. Donc ça se passe à Tel Aviv. Je vais faire un rapide pitch, un micro pitch. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, dès le début du film, on voit qu'il est donc dans l'armée, au combat, sur les champs de bataille, à Tel Aviv. Il est très seul et il décide de s'échapper. Voilà, il se met à courir, il prend la fuite, tout simplement. Et puis, sur sa cavale, il va escalader, voler un vélo, voler une voiture, jusqu'à essayer de rentrer chez ses parents, rendre visite à sa grand-mère. Et surtout, il va retrouver son amoureuse, en fait. Il va retrouver sa copine, qui commençait...
Ce qui peut être un motif de fuite.
Exactement. Simple, innocent, banal. Pour un jeune homme de 20 ans. Sauf que dans sa cavale à Tel Aviv, tout ce qu'il va faire, ça va prendre une proportion et une ampleur incroyable. Et il y a une fin incroyable, il y a une chute incroyable qui renseigne beaucoup sur l'absurdité, l'effroi, mais surtout quand même l'absurde, si je peux me permettre, du conflit, d'une guerre qui part de on sait même plus quoi. Et à la fin, il y a plein de tournants dans l'histoire, mais surtout la fin est incroyable. Et progressivement, en fait, ça le dépasse. Et lui, de ses 20 ans, il ne s'en rend pas compte, il ne mesure pas ça.
On peut dire qu'il y a une sacrée résonance avec, tu disais, l'absurdité du conflit. Il y a quand même une sacrée résonance avec l'actualité.
Oui, absolument.
Parce que non seulement ce conflit est absurde, mais en plus, il est d'une cruauté, d'une violence sans nom.
Voilà.
Donc,
film, c'est une image, une très bonne image de ça.
Okay.
Il y a même, je ne vais pas spoiler, mais sur en chemin, voilà, progressivement, il se rend compte qu'il est recherché. Il fuit son armée qui est derrière lui. Donc, il se cache, il rampe. Il met en place tout un tas de stratagèmes qui rendent le personnage, d'ailleurs, son jeu d'acteur. C'est vraiment son jeu d'acteur qui porte le film. Il est très jeune. Il a un physique très jeune. Il fait très vraiment juvénile. Il est filmé de très près. La façon dont c'est filmé, c'est très intéressant. C'est pour moi, c'est, je me disais, c'est un peu à la croisée entre un film d'action, vraiment un film d'action, le cliché que les adolescents peuvent aimer, un film à suspense. Et il y a un peu une ambiance, ce qu'on qualifierait de film d'auteur, très silencieux, une caméra filmée de très près, mais qui s'efface quand même, caméra parfois tremblante dans les moments de doute, ou quand il va retrouver sa mère, et sa mère comprend qu'il n'a pas une permission, en fait. D'ailleurs, elle lui ordonne de retourner dans l'armée, enfin, au combat. Voilà, la façon dont c'est filmé, c'est très intéressant. Même la bande musicale, il y a quelque chose de thriller à suspense et à la fois de l'action. C'est un film très très intéressant. Okay,
très bien. Franchement, t'as très très bien parlé du film.
Merci.
Okay.
Ça donne envie d'aller.
Je pense que t'as fait le tour. Et ça donne.
Oui.
S'il n'y avait pas tant de films à aller voir, hein, c'est ça le problème. On est toujours confronté à ce même problème. On se dit, à chaque fois qu'on parle des films ici, on se dit, ah là là, il faudrait y aller, mais on se heurte à la quantité.
Ce qui me fait dire qu'il y a un film qui est passé au CAM, je crois qu'il n'y est plus, mais qui était un. Moi, j'avais vu Angers, qui était un film sur. La difficulté de se faire avorter sous Franco, et qui est un très très beau film espagnol qui s'appelle Ocorno, et qui est passé complètement inaperçu. J'ai pas eu le temps de le chroniquer, j'ai pas eu le temps de. Je l'avais vu à premier plan, et c'est un film où il y avait beaucoup de cinéma, où il y avait peu de paroles, où. Tout était dans les plans, dans les images. Et c'est un film qui est passé. Il est passé au CARM. Je ne sais pas combien de temps il a tenu. Assez longtemps. Il a bien pu tenir 15, au CARM 15 jours. C'est déjà pas mal. Hein.
Dans le contexte actuel, c'est plutôt pas mal.
Dans le contexte actuel, parce qu'ils sont les pauvres.
Ils sont débordés.
Ils sont débordés et soumis, aux distributeurs de cinéma. Bon.
Alors moi, je voulais parler rapidement, vraiment rapidement.
Pas rapidement, parce qu'on a encore une demi-heure.
Oui. Donc, mais bon, on a encore pas mal de choses à aborder, je pense, notamment toi, Claude. Donc, deux films. Un qui est, on va dire, c'est une petite comédie française, mais moi, franchement, j'ai passé un bon moment. Ça s'appelle.
Tu peux pas parler de La Petite Vadrouille, j'espère.
Non, pas du tout. Bon. Pas du tout, parce que je ne l'ai pas encore vu. Il y a que toi qui fais toutes les avant-premières, Claude. Moi, je vais voir les films, c'est quand ils sortent vraiment en salle. Donc, c'est un film qui s'appelle Nous les Leroys. Donc c'est un film de Florent Bernard, c'est un premier film, c'est une comédie française, c'est bien écrit, c'est vraiment très bien joué par José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Alors c'est l'histoire d'un couple, bon bah voilà, c'est l'histoire traditionnelle du couple qui s'est un peu perdu, leurs enfants sont grands, enfin sont des adolescents, ils commencent à avoir des problèmes dans leur couple et elle dit je te quitte et lui il décide de l'emmener de partir d'une espèce de road movie où il va l'emmener avec leurs enfants sur tous les lieux importants de leur vie depuis qu'ils se sont rencontrés jeunes et donc le film va dérouler cette idée là qui est vraiment une bonne idée et du coup ça donne quelque chose des séquences vraiment émouvantes. Ça donne des moments tout à la fois drôles et émouvants et moi je trouve qu'il y a une bonne mécanique dans ce film et surtout le réalisateur a eu l'idée de mettre de vrais gags burlesques. Il fait des références au cinéma muet burlesque, à Buster Keaton, à Chaplin. Il y a des scènes uniquement visuelles, notamment le personnage de Charlotte Gainsbourg qui s'enferre constamment qui a toujours des problèmes avec les objets. Et ça donne de vraies scènes burlesques vraiment drôles. Après, il y a un petit bémol, hein, Claude, je te concède le petit bémol que tu mets souvent. Il y a le petit bémol qui est que c'est une grosse production TF1 destinée à passer à une heure de grande écoute un soir sur TF1. Et donc, on a droit à des gags un peu moins bons, à des situations où un peu tire l'arme, de l'émotion un peu facile. Mais finalement, ça n'est qu'une toute petite partie d'un film qui, par ailleurs, fonctionne, moi je trouve, très bien en tant que plaisante comédie. Et alors, le deuxième film dont je vais parler, c'est un film coréen. Alors, vous savez, vous connaissez tout mon amour du cinéma asiatique. Voilà, alors le cinéma coréen, eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que les Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Lee Chang-dong et autres qui maintenant sont sur la brèche depuis une vingtaine d'années et qui ont gagné le cœur des cinéphiles du monde entier depuis bien longtemps, ne sont plus seuls parce que il y a enfin une nouvelle vague coréenne qui émerge, et notamment ce jeune réalisateur dont je vais essayer de pas massacrer le nom, qui s'appelle Kim Chang-un, et donc c'est son premier film. Moi, j'ai trouvé ce film très intéressant parce que, comme souvent dans le cinéma coréen, il y a de la violence, il y a un climat social extrêmement tendu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va rencontrer une sorte de père de substitution, puisque son père à lui est un alcoolique qui délaisse un peu sa mère et avec qui il a des relations très conflictuelles, et il va trouver un père de substitution dans un chef de gang. Donc il va s'acoquiner avec ce gang dans une progression de plus en plus violente, et là, contrairement au film justement de ses aînés où il y avait ce côté extrêmement rageur et nihiliste, mais où il y avait aussi une espèce d'humour un peu sardonique. Là, il n'y a pas un gramme d'humour. On est dans le nihilisme et la violence la plus totale. Alors, c'est extrêmement noir, c'est extrêmement éprouvant, mais c'est quand même un putain de cinéma. Voilà. Et donc, je vous recommande d'aller voir. Je pense qu'il y a aussi, il ne doit plus rester beaucoup, beaucoup de séances. Regardez, il n'y en a peut-être même plus qu'une. Voilà. Ça s'appelle Hopeless.
D'accord. Merci, Xavier. Et on salue Victor qui vient de nous rejoindre.
Bonsoir à ce moment-là.
Non, tu m'entends pas ?
On t'entend bien.
Non, si, c'est bon.
Si, on t'entend.
Oui, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là ce soir. Moi, j'avais envie de vous parler d'un film qui, malheureusement, n'est plus en salle. Mais c'est un des derniers films qui m'a vraiment bien marqué ces derniers temps. C'est le film Une histoire d'amour et de désir. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
C'est un film de Leila Bouzid. Je suis désolé pour les noms parce que c'est des noms d'origine arabe et je ne suis pas du tout qualifié pour parler arabe. Zbeidia Bellajamor et Sami Watabal.
Ah oui, je vois quel film c'est. Moi, je l'avais raté au cinéma, je l'ai vu sur Canal il y a quelques mois.
Ouais,
donc il est bien sorti il y a plus d'un an.
Il y a
en salle.
Sorte de 2000 ans. 2021, pardon.
Ah oui, c'est bien ce qui me semblait.
Ouais, et c'est l'histoire d'un jeune de quartier qui a réussi à obtenir son bac et qui donc du coup part faire des études supérieures à la capitale, à Paris. Et il tombe sur une jeune demoiselle qui, je crois, est d'origine tunisienne. Et en fait, il tombe follement amoureux d'elle. Et en fait, ils se découvrent l'un l'autre dans un cours de littérature comparée qui est axé sur la littérature érotique arabe. Et ils se découvrent l'un l'autre, ils se tournent autour, ils essayent de lui faire découvrir la capitale, etc. Et tout. C'est un film d'une tendresse infinie dans lequel il y a vraiment un aspect très érotique qui est vraiment très très bien développé. En plus, l'arabe, c'est une langue magnifique et ça en parle tout du long, c'est absolument magique. Et voilà, je vous conseille du coup d'aller voir ce film qui est pour moi un film un peu féministe sur les bords en plus, parce que ça parle...
Tu peux redire le titre ?
Une histoire d'amour et de désir.
Alors, peut-être que sur Canal+, a participé au film.
De nombreux mois qu'il est passé sur Canal. Après, à mon avis, c'est un film que tu trouves en VOD
Il est plus sur Canal.
Non, il est plus. Mais je pense que tu le trouves. C'est un film que tu dois trouver en VOD. Oh, oui.
Oui, je pense.
Ça doit pouvoir se voir.
Donc, je veux dire qu'il m'a donné envie de voir.
Mais moi, je l'avais vu il y a déjà quelques mois sur Canal. Et effectivement, j'avais trouvé que c'était un très joli film.
Sur la tendresse. J'aime bien. Moi, je vais vous parler d'un film. Alors, qui est un film, là, je dirais, qualité française, très bien fait. Efficace. Le réalisateur, c'est pas un neuneux, hein, c'est Pascal Bonitzer. Donc, ça s'appelle Le tableau volé. C'est un film qui est juste. C'est une peinture du milieu de l'art et de la peinture, et notamment des commissaires-priseurs. Donc, il y a à la fois la peinture de ce milieu d'art qui est complètement frelaté, c'est vraiment un monde de voyous, hein, y compris avec les avocats. Et ensuite, c'est le portrait de deux, trois commissaires-priseurs, et aussi un film sur leur rapport à l'argent. Alors, je ne vous dirai pas quelle est la fin, parce que le film est toujours
sur les écrans.
Et c'est l'histoire, tout simplement le pitch Asmad, un garçon qui a chez lui, qui est ouvrier, chimiste, qui travaille la nuit et pas de jour. Et il y a un tableau chez lui qui, on découvre en fait que ce tableau, il a été donné à des collabos, car l'ancien propriétaire de la maison était des collabos, et en remerciement, les Allemands lui ont donné un tableau, qui est le tableau d'un très grand peintre américain, je crois. Et bah, il va le vendre, on va le vendre, et donc il y a la bagarre des commissaires pour savoir qui va le vendre, enfin, tout le monde qui tourne autour. Mais c'est un film avec Axel Lutz et Léa Drucker, donc tous les deux très bien joués. C'est un film en plus, alors là, extrêmement bien cadré. Je veux dire, les plans sont, c'est les uns à la suite des autres, c'est cadré, il n'y a pas une tête qui dépasse du... C'est Pascal Bonitzer, hein, et c'est un film qui est très juste sur le milieu de la... C'est pas un film d'une très grande philosophie, mais c'est efficace, on y apprend beaucoup de choses, c'est une jolie histoire. Et puis, c'est surtout ce rapport... Alors, je vous dis pas pourquoi, c'est un rapport à l'argent, parce que ce garçon qui va se retrouver à la tête de beaucoup de millions suite à la vente de ce tableau aux enchères, je ne dis pas ce qu'il va en faire, parce que vous allez aller voir le film.
Exactement. C'est prévu. On refait une petite pause musicale avant la dernière partie.
Absolument.
Alors, il faut que je note le film...
Avec Sirens Calling. Orléans, l'émission cinéma hebdomadaire avec Xavier, Claude et Victor. Xavier, tu voulais nous parler d'un film.
Oui, ben je crois qu'il me semble que Claude et Céline ont déjà dû en parler, mais je voulais revenir rapidement sur ce film parce que moi c'est un film que c'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Ryosuke Hamaguchi. C'est un réalisateur japonais. Alors Il a fait des films aussi importants que Drive My Car, que Senses. Il y a deux ans, il avait fait Contes du hasard et Autre fantaisie. Voilà, c'est un très grand réalisateur japonais. Je l'avais découvert, moi, il y a déjà quelques années avec un film qui s'appelait Asako. Voilà, et je suis à chaque fois ces films avec toujours beaucoup d'intérêt. Et là, moi, le film m'a surpris parce que j'attendais pas forcément Hamaguchi sur un film comme ça. Alors voilà, c'est un film qui force le spectateur à se poser des questions, à être à l'éveil. Dans les films d'Hamaguchi, mais comme souvent dans le meilleur du cinéma asiatique, c'est des films où il faut rester très attentif.
Ah oui.
Parce que le moindre petit détail t'ouvre des interprétations. Là, il y a une scène géniale. Comme souvent chez Hamaguchi, il y a souvent des scènes dans des voitures. Et là, il y a une scène de dialogue entre les deux personnages dans une voiture qui fait comprendre, je pense, beaucoup de choses et sur la signification du film. Alors moi, je dirais que c'est une fable écologiste qui célèbre la nature et les enseignements de la nature contre les dérives du mercantilisme. Et alors le film s'appelle Le mal n'existe pas, mais si, le mal existe. Et Hamaguchi, il met une grosse pancarte sur le mal, et le mal, c'est le mercantilisme et le libéralisme sans conscience.
Ouais.
Voilà, et il est clairement défini, le mal, et on verra, et Claude, je ne dévoilerai pas la fin comme tu le fais toujours, Claude, mais comme tu ne le fais plus du reste, et je t'en remercie, parce que effectivement, ce personnage, il sera amené à aller au bout d'une certaine violence, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative contre ce mercantilisme. Voilà. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que le film est magnifique dans sa mise en scène. Peut-être que dans le sujet, il a fait mieux à Hamaguchi, mais c'est bluffant. Il y a, le film s'ouvre sur des plans, sur un plan extraordinaire, très long, là, très lent, sur, où la caméra passe à travers les branches des arbres. C'est extraordinaire. Et il y a d'autres moments dans le film, il y a un travelling, un moment extraordinaire où il suit le personnage qui avance dans la forêt avec sa petite fille. Et un moment, et le plan le reprend, et la petite fille est sur ses épaules dans un même mouvement de caméra harmonieux. Et des moments comme ça, il y en a des dizaines dans ce film. Et moi, rien que pour ça, je suis bluffé, quoi. Et je dis, mais putain, ça, c'est du cinéma, les gars, allez-y. Si vous voulez voir un mec qui sait tenir une caméra, allez-y. Voilà. Et en plus de ça, il y a la richesse du sujet. Donc, allez voir, Le mal n'existe pas, c'est quand même un putain de cinéma.
Alors, je vais te décevoir, Xavier, parce que je vais dévoiler la fin. Non. Parce que la fin...
Non, Claude.
Si, j'attends que ce film soit en DVD pour pouvoir analyser la fin plan par plan et la séquencer.
Parce justement, que alors, laisse aux gens découvrir cette fin sur laquelle ils auront tous des analyses différentes.
Il y a deux, je mets deux. Non, je suis d'accord avec toi, j'étais d'accord avec Céline. Il y a une première partie du film où on voit effectivement des capitalistes appétant pour
manipulateur,
exploiter,
onctueux et manipulateur.
Une nouvelle forme de camping dans une région qui.
C'est le glamping, c'est le retour de la nature pour tous les bobos japonais.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est la première partie du film où on voit ces capitalistes qui passent par une agence de voyage. Pour l'agence, on dirait de com maintenant, pour expliquer aux paysans comment ils vont être roulés. Et ça, c'est toute la première partie. Et tu te dis, à partir de ce moment-là, on va faire un film, on va voir les confrontations, ils vont aller à Tokyo exposer. Et pas du tout. Il y a une très grosse ellipse et on part sur un deuxième film. Je serais plus mesuré quand tu parles de la beauté de la forêt. Mais alors, il y a une chose que je supporte plus. Chez les cinéastes qui filment la Loire ou une rivière et qui filment la forêt, ils collent de la musique. La forêt a une musique naturelle. Quand on est dans une forêt, il y a les brindilles qui tombent, il y a plein de bruit dans une forêt. Et il n'exploite pas ça. Il fout de la musique, alors que quand on est au cinéma, il y a des musiques naturelles. Un film qui est fait sur la Loire, pareil, le type fait la Loire, il faut la musique. La Loire est une musique naturelle. Les remous font du bruit. Enfin, je sais pas, merde, si on est cinéaste, on doit absolument s'occuper.
Mais la musique est belle dans le film, Claude.
Oui, bah à ce moment-là, d'accord.
C'est une belle musique.
Alors, je sais aussi que ce film est parti à partir d'une musique. J'ai jamais trop compris. Et la fin, je vous l'expliquerai pas.
Ah non.
Parce que.
Certainement pas.
Il y a cette très grosse ellipse où on revoit le paysan qui est le porte-parole des autres habitants de ce village, accompagné de sa petite fille, bien évidemment, et aussi du chargé de com. Et ils sont là. Alors, il y a une agression que j'ai pas trop compris à un moment. C'est pour ça que ce film, je en reparlerai peut-être dans un an ou deux, si je suis vivant, pour séquencer la fin, pour voir si j'ai la même vision que Céline, parce qu'on n'a pas la même vision sur la fin.
Je te parlerai de la mienne, mais hors micro.
J'ai terminé en ce qui concerne ce film.
Claude, tu parlais de notre deuxième film, je voudrais juste une toute dernière chose très très rapidement, c'est que on parlait de mise en scène. Je suis d'accord avec toi, effectivement c'est comme un deuxième film, mais en même temps c'est comme un deuxième film qui est exactement dans le prolongement du premier, et il y a quelque chose de très intéressant en termes de réalisation, et moi ça m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que finalement tu te rends compte que la deuxième partie du film, en termes de mise en scène, elle est le mouvement inversé de la première partie.
Oui, mais...
Elle est exactement, en termes de mise en scène et de lieu filmé, le mouvement inversé de la deuxième partie, pratiquement à la séquence près. Je dis que c'est quand même bluffant.
Oui, mais je suis d'accord. Cette grosse ellipse, finalement, ce combat qu'il aura dû avoir entre les... On n'y assiste pas. Pour eux, c'est perdu. Et on voit les conséquences. On est dans la deuxième partie du film. C'est les conséquences. C'est ce qui va arriver. Et je voudrais vous parler d'un film que j'ai pas vu, mais qui paraît-il un très grand film, qui s'appelle La fleur de Berudi. Moi, je l'ai pas vu, parce que je suis 2h03, mais je crois que c'est un très grand film. Mais il nous reste encore 5 minutes, donc tu vas nous parler de...
Il y a encore le temps, oui.
Asma va nous parler de...
Oui, moi, je peux vous parler d'un documentaire. Ces derniers temps, j'ai surtout vu des documentaires. J'ai vu un documentaire qui s'appelle « Que m'est-il permis d'espérer ?» de Vincent Gaulier. Et Raphaël Girardeau.
Oui, t'as la voix très faible.
J'ai la voix faible.
Oui.
Ah bon?
Non, t'as la voix douce.
Oui.
Mais
mais dans ton micro, elle est faible.
Pour des vieux comme nous, il faut mettre un peu de son.
Ah non. Oui. Là, vous m'entendez bien?
Oui, oui. Ça va.
Victor va venir m'aider à la technique.
Vas-y.
Tout petit instant. Je vous disais donc, j'ai vu un documentaire de Vincent Gaulier et Raphaël Girardeau, duo de documentaristes. Ça s'appelle « Que m'est-il permis d'espérer ?» et c'est sur ils filment en fait un endroit qui accueille les exilés, tout simplement. Un endroit d'accueil, donc des exilés, des demandeurs d'asile. Et ça filme en fait toute la procédure, le périple, du moment où ils arrivent, ils déposent une empreinte, ils essaient de donner leur nom avec la bonne orthographe, une année de naissance, un pays d'origine. C'est vraiment leur principal bagage. Et ils essaient de se faire comprendre et ils sont accueillis par des médecins, des traducteurs. Il y a toute une équipe autour d'eux. On essaie de les loger, on essaie de savoir par où ils sont passés, d'où ils viennent, pour quelles raisons ils sont là, etc. Et en fait, au début, on voit donc une queue de migrants. Pareil, c'est filmé de très près. La façon de filmer est très intéressante. Et de très près, c'est très silencieux. Ça te plairait, Claude, il y a très peu de musique. Enfin, en tout cas, c'est les silences, c'est les respirations, c'est les hésitations.
Oui, c'est le cinéma,
c'est
quoi.
Le souffle.
Il y a une musique complètement naturelle.
Voilà, une musique humaine, la musique de l'humain.
C'est bien.
Et
c'est pas mal aussi, la musique de l'humain.
Oui. Voilà, exactement. Et petit à petit, on se rapproche d'eux et en intimité, chacun, il y a quelques migrants qui racontent leur histoire très concrètement, d'où ils viennent, pourquoi ils sont partis de l'Éthiopie, qu'est-ce qu'il se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils y ont laissé. Et voilà, et c'est très beau, très très puissant. Et ça raconte la complexité, la nuance d'histoire d'hommes en fait. C'est pas du tout des statistiques. plein de gens, plein de visages, des gens qui font la queue. Qui... Là, c'est vraiment, on est face à un homme qui raconte son histoire progressivement. Et à la fin, comment ça se déroule, le délibérer pour eux, ce qu'il en est. Est-ce qu'ils retournent, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils restent. C'est très, très intéressant, très beau. Ça s'appelle « Que m'est-il permis d'espérer ?» C'était repassé au Carme et c'est disponible en VOD. Il est assez facile à trouver.
Le titre est très joli. Hein.
Oui.
C'est vrai, franchement, que m'est-il permis d'espérer, je trouve que c'est un très joli titre. Hein.
C'est à l'image.
Ça aurait pu être un super beau titre de fiction aussi. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Claude, tu veux prendre dernières minutes pour nous parler d'un réalisateur qui va venir présenter
Karim
son film.
Bensalah, que j'ai interviewé longuement à Angers, que j'ai rencontré ensuite à Anonym, qui est un personnage très sympathique. C'est son premier film qui s'appelle « Six pieds sur terre » et qui tourne autour du religieux et des... comment ça s'appelle lorsqu'on enterre les gens des...
Les cimetières ?
Des
cimetières ?
Non, pas les cimetières, le process qu'il y a avant.
Les chiropracteurs ?
Non, oui, enfin, mais c'est pas...
Ça aurait pu, être un film sur les chiropracteurs.
Crématorium ?
Comment ?
Des crématoriums ?
Non, parce qu'on est dans l'islam, là, donc c'est pas des...
Ah oui, d'accord.
C'est
je connais.
La cérémonie de deuil, c'est ça ?
Oui, la cérémonie de deuil, ça porte...
C'est un nom,
On prépare les morts.
Les pompiers, ah, oui.
C'est la préparation pour
la préparation. D'accord. Ça tourne autour de ça. Et il y a... je peux pas vous dire, mais il y a un moment très drôle dans le film. Et Karim Benzema se déplacera au Carme. Alors, je sais plus si c'est le 17 ou 19 juin pour venir présenter son film.
Le 19 juin.
C'est le 19 juin.
Oui,
c'est le 19 juin. Et c'est pas un très, très grand film. Mais c'est un film qui pose quand même un certain nombre de problèmes, qui va beaucoup plus loin qu'on le pense. Et Karim Benzema est un personnage, comme dit lui-même, c'est un brésilo-algéro-français, parce que sa mère est brésilienne, son père est algérien, il était diplomate, son père, et lui-même a fait des études de lettres à Paris, et il n'a pas étudié le cinéma la FEMIS, il a dit « je vais étudier le cinéma à Londres ». Donc j'aurai l'occasion de vous parler de Karim Benzema, notamment, c'est une histoire d'apprentissage, je vous passerai l'interview de Karim, on pourra passer l'interview de Karim Benzema.
Benzema,
oui, mais pas Benzema.
Il y a une similitude de prénom.
Qui en plus a une voix, moi qui suis avec une orthophoniste en ce moment, je lui ai envoyé cette voix pour lui dire voilà la voix que je voudrais avoir. Il a une voix qui est chaude, qui est avec un timbre qui est très très avec les syllabes très détachées. Enfin, je veux dire,
En tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un d'intéressant à rencontrer pour le public
orléanais. Oui.
T'as aimé le film ?
Oui, mais c'est pas un très très grand film, c'est un premier film. Oui. Mais bon, c'est drôle.
D'accord.
En plus, c'est drôle.
Voilà.
Eh bien, écoutez, on va vous quitter.
Vous vouliez nous ajouter quelque chose ?
Non.
Non, il faut aller.
Si. Ah, n'oubliez pas d'aller au cinéma.
Il faut aller au cinéma. Voilà. Et puis, si on pourrait dire que il y a tellement, on le disait encore tout à l'heure, il y a tellement de films à l'affiche. Regardez, hein, renseignez-vous, lisez les critiques, regardez ce qui passe à proximité de chez vous. Il y a plein de films intéressants encore dont on n'a pas pu parler ou qu'on n'a pas vu. Il y a notamment un film que moi j'ai noté dans mes petites tablettes. Que je vous conseille, même je l'ai pas encore vu, je vais le voir là très rapidement, qui s'appelle Civil War. C'est un film qui a une très bonne presse, qui est très chaudement recommandé par mon organe de presse favori, Mad Movies, en lequel je fais toute confiance. Et apparemment, c'est un film absolument bluffant sur une guerre civile qui se déclenche aux États-Unis entre le Texas et les autres États américains. Le Texas se sépare et c'est une équipe de journalistes qui suit cette guerre au jour le jour. Et il paraît que c'est d'un réalisme et d'une puissance incroyable. Donc je vous dis, allez voir ces films là il faut les voir sur grand écran, et du reste je peux vous dire que j'y serai très bientôt, et dans 15 jours on sera là, donc on vous en parlera
avec Céline peut-être.
Et merci Victor et merci Asma.
Merci.
Asma. Merci à toi Asma,
parce que sans toi l'émission n'aura pas pu exister.
Merci voilà. À Victor surtout qui m'a assisté à la technique. Merci Xavier,
merci à vous deux.
Bye.
Bon film à tous.
À bientôt.
Belle soirée sur Radio Campus Orléans. Merci.